Santé pour tous.
Santé pour tous.
Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolloux pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Une personne sur trois vivant avec le VIH se présente dans les services de soins à un stade avancé et cette proportion est plus élevée dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. À cela s'ajoutent des personnes qui viennent aux soins elles aussi à un stade avancé après une interruption de leur traitement. Plusieurs essais randomisés de grande ampleur ont montré que la prestation d'un ensemble d'interventions peut diminuer la morbidité et la mortalité associée au stade avancé de la maladie à VIH. Dans le magazine de ce jour, il sera question de l'apport des soins et soutien pour éviter l'infection à VIH au stade avancé. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Un atelier de formation des organes de presse sur l'infection à VIH au stade avancé a eu lieu à Dabou et il a été question de l'importance de l'observance au traitement ARV en vue d'un changement de perception des populations sur le VIH. La thématique qui nous intéresse aujourd'hui est l'apport des soins et soutiens pour éviter l'infection à VIH au stade avancé. Cette thématique a été présentée par Dr Mema Yenou Hélène. À l'entame de ses propos, la chef de service soins et soutiens au programme de lutte contre le sida au PNLS a donné la définition de l'IVSA, l'infection à VIH au stade avancé.
Les gens qui abandonnent leur traitement, ou encore on les appelle patients en interruption de traitement ou perdus de vue. Perdus de vue, avant on disait 3 mois, aujourd'hui on parle de 28 jours. Quand la personne n'est pas observante au traitement, il y a un échec du traitement qui survient et une résistance. L'observant, c'est quelqu'un qui doit prendre son traitement régulièrement. Et tous ces facteurs vont contribuer à la progression de l'infection à VIH vers un stade avancé. D'où l'intérêt et la nécessité d'optimiser les soins VIH. Quelqu'un qui vient à un stade avancé, il faut le catégoriser. Selon l'OMS, il faut identifier rapidement et urgentement les infections opportunistes qu'il présente et les prendre en charge. D'où, il faut offrir un paquet rapide de soins adaptés à sa situation. Il y a aussi les signes d'alerte. En tant que médecin, si le patient présente des pathologies qui ne sont pas ta spécialité, il ne faut pas faire l'apprenti sorcier, il faut le référer où il doit être correctement pris en charge. S'il n'y a pas de signes d'alerte, le paquet de services offerts se fait en ambulatoire. C'est-à-dire, si le patient est hospitalisé, non, on peut le faire venir, il vient, on le construit, on fait faire ses bilans, on lui donne son traitement et puis il s'en va à la maison.
Dans les soins et soutiens dont elle a la charge, il y a un volet prévention et un autre relatif à la prise en charge, mais que savoir des soins et soutiens, Dr Mema Yenou Hélène.
Le volet prévention, c'est dépistage, PTME, prise en charge des IST, la PrEP. Maintenant, on a un volet prise en charge. Et là, on a deux parties. La première partie, c'est le traitement antirétroviral. Et la deuxième partie, c'est le soin et soutien au PPVIH, OEV. Parce que dans le terme de soins et soutiens, on ne prend pas en charge que le patient, mais on prend en charge son environnement qui l'accompagne. C'est pourquoi, en soins et soutiens, on dit souvent personne infectée et affectée par le VIH. Les OEV, c'est les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Comme c'est un problème qui agit sur la famille, aussi la famille doit être prise en compte et ne pas être écartée. C'est pourquoi souvent on dit aux gens, quand tu connais ton statut, il faut le partager avec quelqu'un de la famille, pas tout le monde, mais quelqu'un à qui tu peux avoir confiance, qui ne va pas te divulguer, mais qui peut te soutenir et t'aider, t'accompagner pendant toute la durée de la maladie. Initialement, depuis 2005, soins et soutiens, c'était ce qu'on appelait les soins palliatifs. En plus des soins palliatifs, à partir de 2013, on a ajouté la santé positive, dignité et prévention. On a ajouté d'autres paquets à ces soins et soutiens. Et dans le PSN, le plan stratégique national, il y a ce VIH. Quand on a fait la revue à mi-parcours, on nous a demandé de revoir le paquet de soins soutien, d'harmoniser tout ce qui était présenté et de sortir ce qu'on a appelé le dispositif national et le paquet minimum d'activités des soins soutien aux personnes vivant avec le VIH, aux orphelins et familles. Et de ce paquet-là est sortie deux définitions. La définition des soins soutien dans le monde et la définition des soins soutien retenus par la Côte d'Ivoire. Ils sont offerts selon les besoins du PPVIH. Ces besoins-là sont médicaux, psychologiques, spirituels, sociaux, économiques, nutritionnels, juridiques, etc. dans le cadre d'une approche différenciée. Dans le cadre d'une approche différenciée, ça veut dire que cette approche est centrée sur le patient. Les PPVIH ont l'habitude de dire « ce que tu fais sans moi, tu le fais contre moi ». Donc, tout ce que tu dois faire, tu le fais en collaboration avec eux. Et c'est ce qu'on appelle l'approche différenciée, approche centrée sur le patient. Le continuum de soins, c'est qu'on peut traiter quelqu'un à l'hôpital, de l'hôpital, le ramener dans la communauté et même jusqu'à domicile. Ou on part du domicile, on va dans la communauté et on l'envoie à l'hôpital. Parce que le VIH est une maladie chronique et incurable. Si on le laisse tout le temps à l'hôpital, arrivé un moment, ça appauvrit la famille et c'est difficile. Donc quand on voit qu'il va mieux, on l'envoie dans la communauté pour qu'il soit aidé par la communauté ou en famille pour que la famille puisse l'aider. Et puis lui aussi, dans la famille, psychologiquement, il se sent mieux que d'être dans un hôpital et ça peut l'aider à reprendre le dessus. Quels sont les cibles de soins soutien? C'est la personne infectée et affectée par le VIH. C'est les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH et la famille. Ça prend en compte l'adulte, l'adolescent et l'enfant. Mais ça prend en compte aussi le personnel soignant. Parce que le personnel soignant qui prend en charge quelqu'un qui a une pathologie chronique et incurable va développer un burn-out ou un syndrome d'épuisement professionnel du soignant. Donc il faut aussi prendre en compte cette personne-là. Il ne faut pas le négliger. Les soins et soutiens sont à la fois cliniques et communautaires. Parce que souvent, quand je dis soins et soutiens, non, c'est pour la communauté, non. C'est pour tout le monde dans toute la chaîne. Chacun a sa partie. Ça peut être simplement clinique, ça peut être simplement communautaire.
Alors, face à l'itinéraire thérapeutique du patient et de la gestion du deuil du malade après son décès, ainsi que la prise en charge de la famille, voici ce qu'elle dit.
En termes de soins, on a les soins curatifs, c'est-à-dire les soins qui guérissent. On a les soins préventifs, les soins qu'on donne pour ne pas que la personne puisse devenir malade. Et on a les soins et soutiens pour des pathologies qui sont chroniques où il n'y a pas de traitement spécifique qui guérisse. Donc, c'est les soins curatifs et les soins préventifs. Et c'est les soins et soutiens. Les soins et soutiens, ils commencent depuis le dépistage de la personne, de son statut sérologique. Quand vous faites un pré-test, c'est-à-dire pour l'amener, c'est du soutien psychologique, pour l'amener à accepter de faire le dépistage. Et quand il s'en va faire le dépistage, qui donne son statut sérologique, il revient encore vous voir, vous faites un post-test, qui est aussi un soutien psychologique, pour l'amener à accepter son résultat et lui donner des conseils. Donc, les soins et soutiens commencent depuis le dépistage de la maladie, pendant toute la prise en charge de ce patient, jusqu'à son décès. Mais après, elle continue par la prise en charge de son environnement, de sa famille, parce que sa famille, s'il n'a pas accepté le deuil, le départ de son parent, il va développer ce qu'on appelle le deuil pathologique. Et le deuil pathologique peut se présenter sous plusieurs formes. Il peut faire une hypertension, il peut faire un diabète, il peut faire une pathologie. Vous allez penser que c'est une pathologie banale, mais c'est une pathologie qui est sortie du fait qu'il n'a pas accepté le départ. Après le départ, on continue de voir comment on peut aider ces familles-là, mais ce n'est pas continuel. Mais il y a aussi les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait de VIH qu'on doit continuer à prendre en charge jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine majorité. En cas de décès du patient, un ensemble d'activités en lien avec les composants de soins et soutien sont menées pendant une période bien définie en faveur de la famille en deuil selon le besoin pour éviter la survenue du deuil pathologique. Les soins et soutien sont donnés selon le besoin. Il peut avoir besoin d'un seul soin comme il peut avoir besoin de plusieurs soins. Donc c'est au soignant de voir ce qui est possible pour cette personne.
Les 3,95 objectifs à atteindre en 2023 étaient l'un des points de son exposé. Il s'agit d'une directive de l'ONU-SIDA.
L'ONU-SIDA a décidé que d'ici 2030, il doit avoir une élimination du VIH-SIDA. Élimination du VIH-SIDA, ça ne veut pas dire que c'est fini complètement. Ça veut dire que on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles infections, de nouvelles contaminations. Faire en sorte que ceux qui sont déjà contaminés, connus, qui sont sous traitement, continuent à prendre leur traitement, puisqu'on dit que c'est un traitement à vie. Donc, on ne peut pas les occulter. Et puis, faire en sorte que ceux qui ont été bien pris en charge depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui sont encore vivants 26 ans après. Donc, il y a tout un travail. Avant d'arriver en 2030, ils ont mis en place des objectifs d'accélération qu'ils ont appelés les 3,95. Le premier 95, c'est les personnes qui ont été dépistées et qui connaissent leur statut sérologique. C'est-à-dire que 600 personnes qui ont été dépistées, à qui on a dit tu es positif, on leur a donné l'occasion de connaître leur statut. Mais on s'arrête à 95%. On peut arriver à 100, mais au minimum, 95 sur les 100 dépistés positifs doivent connaître leur statut sérologique. Et pour le premier 95, quel composant des soins soutien qu'on va utiliser? C'est la composante psychologique et la composante spirituelle. Le résultat, c'est d'amener la personne à accepter d'abord de faire le dépistage, mais au post-test, d'accepter son statut sérologique. Parce que s'il n'a pas accepté, il a un déni, il refuse la réalité. Mais aussi, des enfants qui sont nés de mères séropositives, qui ne connaissent pas leur statut, il faut faire l'annonce adaptée du statut sérologique aux enfants et aux adolescents, mais en tenant compte de leur maturité. Le deuxième 95, c'est que 95% des personnes diagnostiquées positives soient mises sous traitement. Avant, pour mettre quelqu'un sous traitement, il y avait des critères d'éligibilité. Mais maintenant, on ne le fait pas. Dès que tu es dépisté positif, on te met sous traitement pour te donner des chances de ne pas arriver à l'IVSA. Sauf si tu es venu tardivement pour faire ton test. Et là, notre problème essentiel, c'est les hommes qui ne viennent pas tôt à l'hôpital. Quand on fait la prévalence pour le nombre de personnes vivant avec le VIH, on a une féminisation de l'épidémie. Mais quand on regarde le chiffre des décès, c'est les hommes qui sont en tête. Parce qu'ils ne viennent pas tôt à l'hôpital, ils ne font pas leur dépistage, ils ne font pas leur traitement. Et quand la maladie vient, ils décèdent plus que les femmes. Au deuxième, c'est-à-dire ceux qui sont mis sous traitement, on utilise toutes les composantes des soins sous. Le premier résultat, c'est qu'il accepte de prendre son traitement antirétroviral. Parce que s'il n'est pas mis en confiance, le traitement que vous allez lui donner, il n'acceptera pas. Deuxièmement, il sera retenu durablement dans les soins. Le troisième 95, c'est 95% des personnes qui sont sous traitement à une charge virale durablement supprimé, c'est-à-dire indétectable ou supprimé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est guéri. Faut pas que quelqu'un va venir te dire, moi j'ai fait mon test, ma charge, elle est super ou indétectable, donc j'arrête mes médicaments. Ça ne doit pas se faire. On a la charge virale durablement supprimée, on a la rétention durable dans les soins, et le but qu'on poursuit, c'est l'amélioration de la qualité de vie. La suppression virale durable, c'est la suppression de la charge virale. L'offre de soins soutien permet de renforcer l'observance du traitement, la rétention des patients durablement dans les soins, afin de prévenir l'évolution de l'infection VIH à un stade avancé. Maintenant, ceux qui sont déjà à un stade avancé, il faut les prendre en charge. En soins palliatifs, il y a l'habitude de dire, il y a toujours quelque chose à faire. Pour aider quelqu'un.
Tous les patients dépistés au VIH sont systématiquement enrôlés dans un programme de prise en charge pour un traitement ARV.
Pourquoi les médicaments antirétroviraux ne partent pas dans les organes lymphoïdes pour faire? La question du VIH est venue tellement rapidement qu'il a fallu parer au plus pressé en développant des médicaments. On n'a même pas eu le temps même souvent de faire l'expérimentation de ces médicaments et obligé de donner pour limiter les dégâts. Et puis, ça dépend aussi du type de médicament. Parce que les médicaments sont faits au niveau où les virus rentrent dans les cellules. Il y en a qui vont jusqu'à l'ADN même, pour aller détruire l'ADN, contaminer l'ADN, diviser la cellule en deux, se multiplier, sortir, c'est comme ça qu'ils font, puis détruisent les cellules. Donc, les médicaments sont donnés en fonction du lieu d'action. Mais au niveau des organes lymphoïdes ou du thymus, les études continuent pour voir comment on peut faire pour agir. Ces derniers temps, on parle d'un médicament qu'on donne sous forme de piqûre. Il y a beaucoup d'évolution dans la recherche. Et plus on s'avance pour aller être pointu, quand le médicament est trouvé, il est cher. On a trois régimes de médicaments. Le premier régime, on donne ça. Si la personne n'a pas été observante, qu'il a grillé, on passe au deuxième régime de traitement. S'il a encore grillé le deuxième régime, on passe au troisième régime qu'on appelle le régime de sauvetage. Et ça, ces patients-là, ils sont suivis dans le centre de référence national qui est le service des maladies infectieuses. Mais ce sont des traitements qui coûtent cher, pas moins de 1 million. C'est pourquoi il faut sensibiliser les gens quand ils viennent prendre le traitement, de rester observant, d'être adhérent, accepter de prendre et observant au.
À la question de savoir quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées dans l'acceptabilité des traitements de substitution par les usagers de drogue, élément de réponse.
Ce n'est pas les soins soutien qui font les usagers de drogue. C'est un autre service, le service de population hautement vulnérable. Ils font partie des populations clés. Mais je peux vous dire qu'on a deux types d'usagers de drogue. Ceux qui prennent des injectables, puis ceux qui boivent. Donc ils sont suivis là-bas. On leur donne par exemple le produit de substitution qui est la méthadone pour faire le sévrage et puis ils peuvent sortir. Aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux types de drogues en circulation qui posent problème. Je parle du fameux Kadhafi qui est fait à base de médicaments donnés au cheval. On mélange avec les autres drogues. Celui qui prend le Kadhafi, il n'y a pas de retour en arrière. Avec le programme tabac, parce que c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui ont le lit. Ils nous disaient que les chichas sont donnés pour rendre les gens fous. Ils allument le feu, ils mettent le chicha dedans. Ils mettent du paracétamol, de l'aspirine. Celui qui inhale ça devient fou. Il y a un centre de méthadone qui a été installé qui permet de prendre les usagers de drogue et puis de les amener à sortir de l'addiction. Comme je peux vous dire aussi, l'usage du sucre est une addiction. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Pour leur enlever l'usage de la drogue, en tout cas, ça marche au Kenya. Ils ont un centre même de prise en charge des intoxications de la méthadone qui marche bien. Les gens viennent, ils prennent leurs médicaments. Et puis, il retouffe.
Sur la place qu'occupent les communautés religieuses dans cette lutte contre le VIH, la réponse de notre experte.
Dans les communautés religieuses, c'est vrai qu'on demande aux gens de ne pas prendre des ARV. Mais ce que nous avons constaté, depuis qu'on a fait l'identification, ils ne sont pas formés sur le VIH. Ils entendent ce que les gens disent, mais ils ne savent pas. Quand on les forme, avant même qu'on finisse la formation, on a compris. On ne va plus les empêcher d'aller prendre leurs médicaments. Ils vont aller et puis ils vont revenir dans le camp de prière. Nous allons faire ce qui nous intéresse, la prière, les délivrances, etc. Donc c'est une question d'information et de formation. Puis on finit de les former. Eux-mêmes, ils font un plan. On leur donne la feuille de route. Ils suivent. On met en place pour chaque formation un groupe WhatsApp où ils se parlent, où ils échangent. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire son métier. Les communautés religieuses, leur dogme, c'est que Dieu guérit. Tu ne peux pas leur enlever ça. Et pour travailler avec eux, il faut respecter leur principes. Donc, à partir du moment où on respecte leurs principes, eux aussi, ils commencent à comprendre. Quand on fait la formation, on met comme slogan « Le médecin soigne, Dieu guérit et puis le malade prend ses médicaments. » Le leader religieux prie. C'est ce travail-là seulement qu'on peut faire pour les amener à ne pas demander aux gens d'arrêter leur traitement. On a mis en place une application Kobo Colette qui nous permet d'identifier les camps de prière et les lieux de culte géolocalisés qui est installable sur le téléphone Android. Vous pouvez aller dans un coin, dans une église, dans une mosquée. On n'a pas d'a priori, on prend tout le monde. Vous déroulez l'application, à la fin vous géolocalisez. On prend la photo du premier responsable et puis on lance ça par internet, le PLS à la base de données. Et là, on est en train de travailler pour la deuxième édition du répertoire. Quand tu as le répertoire, mais que tu arrives dans une zone, dans une commune, dans une région, de savoir le camp de prière se trouve où ça aide les gens. Et là, nous sommes en train de travailler avec les familles religieuses pour que nous puissions les aider. Quand on finit, on leur remet la base de données, mais on peut réviser tous les 2 ou 3 ans. Il y a des gens qui sont décédés qu'il faut renouveler. Ils ne sont plus les premiers responsables. Donc, il y a tout ce travail-là qu'il faut faire, qu'on est en train de faire.
Santé pour tous. Santé pour tous.
Pour prévenir le stade avancé de la maladie et prendre en charge les personnes qui y sont confrontées, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le sida, combine un ensemble d'interventions. Le renforcement du dépistage et l'initiation rapide du traitement antirétroviral, la numération initiale des CD4, la mise sous traitement, les tests de charge virale en routine, le dépistage et le traitement rapide d'infections opportunistes majeures, enfin le passage accéléré au ARV de deuxième ligne pour les patients à un stade avancé du VIH ou dont le traitement a échoué. Raison pour laquelle le Programme national de lutte contre le sida a renforcé les dispositifs de référence entre le niveau communautaire, les centres de santé et les hôpitaux avec des tests et soins gratuits pour le patient. Pour le VIH, il ne faut pas s'inquiéter, il suffit d'y aller et de se faire dépister. Fin de Santé pour tous. Merci et à bientôt.